Voilà, bonjour à tous. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qu'on a dit bonjour, on a chanté ensemble, là, mais c'est l'occasion toujours de vous souhaiter la bienvenue. Et c'est vrai que le Seigneur nous accueille chaque fois. C'est lui qui nous travaille tout le long de la semaine, qui nous exhorte. Et puis même avant, moi je suis là ce matin avec un sujet que j'ai sur le cœur, forcément, mais je suis convaincu qu'il ne vient pas de moi ce sujet. Dimanche dernier, il y a eu ces témoignages pour ceux qui étaient là. Ça a fait écho à ce que j'avais en tous les cas dans mon esprit. On a eu une réunion d'études vraiment le mardi où bizarrement aussi des choses sont revenues que j'avais pas pensé. Ce matin, le psaume 91, je me trouve où, quoi. Et je trouve ça toujours sympa vraiment de commencer à parler, sachant que oui, on est une seule pensée, un seul esprit. Et ça, c'est la réalité. Et on est dans un monde spirituel. Grâce à Christ, on est dans ce monde-là spirituel où on a à grandir. On n'a plus seulement écouté notre homme naturel, mais notre homme spirituel. Et si on écoute de plus en plus, finalement, cette nature spirituelle en nous, nourrie par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on doit devenir? Qu'est-ce qu'on devient? Et ce que j'ai envie de voir ce matin, c'est à partir de l'histoire d'un homme de l'Église, de l'Ancien Testament, et la culture de la victoire. Je parlerai ce matin d'Élisée, entre autres, je ferai des allers-retours aussi dans le Nouveau Testament, et parce que c'est un personnage biblique qui est haut en couleur. C'est un personnage biblique qui a grandi sous la tutelle d'Élie. Élie qui était lui-même un grand homme de Dieu. Élie, c'était l'image du Dieu lui-même sur la terre. Élie, il a eu, c'est vrai, des moments de découragement, mais dans ce moment de découragement, il y a été dit qu'il allait voir, il allait oindre Élisée. Et de suite, il a le clic qui fait qu'il repart et il va aller voir Élisée pour l'oindre et le prendre avec lui. Élie, c'était quelqu'un d'extrêmement dur. Il avait cette nature de Dieu en lui, mais du Dieu saint, du Dieu qui juge, du Dieu qui condamne. Élie, il n'a pas hésité lorsque Akazia veut être guéri. Et il envoie, c'est un roi d'Israël, il envoie des troupes par 50, trois fois, et il n'hésite pas à jeter le feu sur eux. Il n'attend pas que ce soit Dieu qui juge, mais lui-même, il juge et il jette le feu. Et en revanche, ce qu'on va voir avec Élisée, il ressemble beaucoup plus à l'image de Christ, le Christ plein de grâce. Il y a un moment aussi où on pourrait dire Élisée a été dur, vous savez cette histoire où il vient de perdre, enfin de voir Élie, et d'ailleurs tiens Élie n'est pas mort, comme Dieu ne meurt pas. Élie, il a été simplement élevé au ciel et il est disparu. Et Élisée qui voit ça, il est impressionné, bien sûr, touché, il prend le manteau, on va le voir, et il s'ouvre le chemin à travers le Jourdain. Et de suite, il y a des jeunes qui sont là, des jeunes, qui se moquent de lui parce que, bon, visiblement, ils lui disent « Monte, chauve ». Et il prend ça vraiment comme une attaque contre lui, je ne sais pas. Mais il pourrait, lui aussi, comme Élie, il a vu Élie jeter le feu. Il aurait pu, comme Élie, jeter ce feu-là. Il a dit « Non, il les a maudits, c'est vrai ». Mais il laisse faire Dieu. Voilà, c'est une petite nuance pour dire cette différence des choses. Et on voit que l'image de la grâce parfaite, c'est quand même Christ. Christ qui est venu sur la terre, on l'a rappelé, pour nous racheter. Christ qui est venu, mais pour nous transformer, pour nous donner cette culture de la victoire aussi. Donc Élie, on l'a vu, c'était ce prophète puissant, Élisée qui vient à sa suite. Et c'est étonnant aussi de voir que, comme je l'ai affiché dans ce verset d'Hébreux, donc des femmes recouvrèrent leur mort Donc ça, c'est Hébreux 11, par la foi, hein, ce chapitre de la foi qui fait une description des hommes de la foi, des hommes de Dieu qui ont été, qui ont, et des femmes de Dieu qui ont persévéré. Et puis, au sujet de ces prophètes-là, il est dit « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection » ou encore au verset « Et ils allèrent çà et là vêtus de brebis ou de chèvres, errant dans les déserts et les montagnes, et dans les cavernes et dans les antres de la terre. » Voilà c'est leur vie qu'ils menaient. Et j'ai juste pour souligner cette image que l'on a, nous peut-être, de la victoire sur cette terre, de notre ce que nous considérons par notre sagesse comme étant une vie pleine, une vie entière. Non, ces prophètes qui avaient cette culture de la victoire en Christ, c'est vrai, étaient errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les ondes de la terre. Alors nous ne sommes pas forcément appelés à vivre ça, bien sûr, mais détachés en tous les cas de tout ce que la sagesse de ce monde nous entraînerait. Alors Élisée était témoin de cette scène impressionnante. Tu peux afficher l'image. Voilà. Et finalement, avant de commencer son ministère, il s'écrit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Donc c'est une expression qui m'a toujours frappé, qui m'a surpris. Parce que d'un côté, elle témoigne de l'attachement d'Élisée envers Élie, hein, « mon père ». Et bien sûr, ça me fait penser à cette même proximité qu'il y avait entre Dieu et Christ et le Seigneur, où Jésus nous a annoncé le Père de cette façon-là aussi. Et donc Élisée crie deux fois « mon Père ». Mais avant, il faut se rappeler que Élisée a demandé, donc dans la présence, dans l'intimité avec Élie, il a demandé une double portion de l'Esprit. Et écrit deux fois « mon Père ». Moi, je relève ça, ça me frappe. Et la conséquence, c'est que En effet, Élisée reçoit cette double portion de l'Esprit. Donc, il reçoit cette double portion de l'Esprit. Mais avant cela, ce qui est intéressant aussi de considérer, c'est l'appel qu'Élisée a reçu. Et là, je voudrais lire ce passage. Donc c'est le chapitre 1 Roi 19, verset 19. Donc Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Donc il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était là avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit « Laissez-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai ». Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Donc, il a fait, il lui a jeté son manteau. Hein. Et après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Donc, ce qui est surprenant là, c'est la rapidité avec laquelle Élisée entend et comprend très vite cet appel, l'appel d'Élie. Et dès qu'il est revêtu de son manteau, il prend aussitôt la place du serviteur. Il est dit ailleurs que Élisée lavait les mains d'Élie. Il y avait vraiment une intimité, une belle intimité entre ces deux prophètes. Et il y avait cette même relation respectueuse qu'il y a entre un père et un fils. Et pas étonnant finalement aussi que, à la fin de leur route commune, finalement, Élisée s'écrit « mon père ». Élisée considérait Élie comme son père. Et peu avant qu'Élie monte au ciel, donc dans un tourbillon, Élie partait donc de Gilgal, il devait aller à Bethel. Donc juste géographiquement, Gilgal, c'était là où le peuple d'Israël avait traversé le Jourdain, première fois, pour aller attaquer Jéricho, hein. C'est là où il y avait les 12 pierres qui étaient semées par les 12 tribus d'Israël. Et Bethel, c'est l'image, donc aussi, ça veut dire maison de Dieu. Voilà, C'est l'entrée dans la vie pour aller à la maison de Dieu. C'est notre parcours aussi à nous sur la terre. C'est intéressant tous ces symboles aussi. Et donc, Élie veut monter de Gilgal pour aller à Bethel. Et il demande à Élisée, tu restes là, tu ne me suis pas, tu ne restes là. Et là, il y a encore un attachement qui est tel que Élie répond par deux fois. Donc, c'est dans 2 Rois 2, verset, je ne l'ai pas affiché, il dit deux fois, l'Éternel est vivante et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Deux fois, il dit ça, deux fois, Élie veut qu'il parte et deux fois, il répond ça. Et cette déclaration me fait penser aussi à celle de Pierre avec Jésus qui se dit prêt à aller avec Jésus jusqu'à la mort. Il lui dit, mais je te suivrai où tu iras. Je suis prêt à mourir pour toi. Et Élisée a bénéficié, par l'intermédiaire d'Élie, donc de cette proximité immédiate de Dieu. Et peu à peu, cette intimité l'a transformée et il l'a cultivée ainsi une culture de la victoire. Il ne faut pas oublier que Élisée, c'était un laboureur, c'était un cultivateur. Et patiemment, il s'est laissé, comme une terre, transformé par la proximité de Dieu sous l'influence d'Élie. Cette culture de la victoire lui a permis de demander à Élie une double portion de son esprit. Et Élie, là, dans cet épisode-là, lui précise, mais c'est vraiment une chose difficile, là, que tu demandes. Et que tu recevras que si tu me vois m'élever au ciel. Ben, c'est pas étonnant que finalement Élisée ne lâche pas d'une semelle Élie et qu'il veut sa double portion de l'esprit. Et dans la même comparaison que je voudrais faire avec Pierre, qui ont prononcé ces mêmes envies, cette même motivation à aller jusqu'au bout, ben, Pierre, lui aussi, l'a acquise grâce à sa proximité avec Dieu, par l'intermédiaire de Jésus. L'un comme l'autre, donc Élisée comme Pierre, ont proclamé clairement leur attachement sincère à leur maître. Alors comment se fait-il qu'Élisée démarre son ministère avec puissance, de suite, directement, dès la disparition d'Élie, et que Pierre, la conséquence, c'est son reniement. Il renie Jésus publiquement. Et ça, on le voit de suite parce qu'il s'est éloigné, ou Jésus lui-même s'est éloigné. Alors, la différence, finalement, entre ces deux situations, je dirais, c'est le manteau. Rappelez-vous, c'est le manteau qu'Élie lui a jeté dessus lorsqu'il a bourré. Je rappelle, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et au passage, regardez comme nullement effrayé, finalement, Élisée perçoit aussi cette manifestation comme la puissance de la victoire de Dieu. Et juste, on va lire cet épisode. Oui, voilà. Je vais lire cet épisode où on voit. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Et lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Donc ce manteau symbolise le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, qui vient recouvrir les hommes et les femmes fidèles à Dieu. Ainsi, en jetant son manteau sur Élisée, Élie, loin du Saint-Esprit. L'onction, c'est une enveloppe. L'onction enveloppe ainsi les hommes fidèles dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est la condition pour que l'onction descende. c'est que, et que finalement le Saint-Esprit intervienne et manifeste sa présence, c'est qu'il fallait que ces hommes-là mènent une vie digne de la présence de Dieu. Georges, il y a quelques semaines, a parlé de Gédéon, et lui, Gédéon aussi, il a été revêtu, il a été oint de l'Esprit. Et donc, il fallait mériter cette présence par l'obéissance à Dieu. Et finalement, le Saint-Esprit enveloppait les hommes fidèles ou abandonnait ceux qui désobéissaient à Dieu, et comme ce fut dramatiquement le cas pour Samson ou pour Saül. Pour Élisée, l'esprit d'Élie, ou autant dire le Saint-Esprit, reposait sur lui. Et cela se voyait, car tous les témoins de la scène, là, dès le début, ont pu le constater visuellement. Et là, je soulignerai encore une nuance, c'est que, veuillez la noter, c'est que le Saint-Esprit reposait, ou il enveloppait, mais ne remplissait pas Élisée. Alors, pour revenir à la situation avec Pierre, alors qu'il était éloigné de Jésus, il n'y avait pas de manteau. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Et il viendra plus tard à la Pentecôte. Et finalement, Pierre, malgré sa bonne volonté, il s'est confronté à la réalité de son cœur non transformé par le Saint-Esprit. Pierre avait bien assimilé la culture de la victoire. Il avait marché sur l'eau. Mais en l'absence de Jésus, il n'avait plus la capacité propre de mettre cette culture de la victoire en action. Et il a fallu qu'il soit patient, car Jésus avait prévu d'envoyer le Saint-Esprit, et pas seulement pour revêtir les croyants comme dans l'Ancien Testament, mais aussi pour les remplir. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, où tous ceux qui étaient là furent remplis du Saint-Esprit. Il n'est pas précisé qu'ils furent oints ou enveloppés, comme dans l'Ancien Testament, mais il est précisé qu'ils furent remplis par l'Esprit. Et par la suite, nous savons ce que la culture de la victoire rejoint par l'action du Saint-Esprit, on sait ce que cela produit, vraiment comme miracle et témoignage à la gloire de Dieu. Et ça, dès l'apparition du Saint-Esprit, dans des hommes et des femmes convaincus de la culture de la victoire. Donc la grande différence entre le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est que grâce à la mort de Christ et à son ascension, le Saint-Esprit descend pour remplir tous ceux qui par la foi accueillent le salut de Jésus-Christ. Alors en venant à notre rencontre, dès le premier jour, dès le premier instant où nous acceptons Christ, la présence du Saint-Esprit est en nous. Et on en profite tous, nous, les enfants de Dieu. Et cette vie de l'Esprit, c'est un véritable miracle qui nous recentre et qui nous réoriente dans l'essentiel de nos vies. D'ailleurs, le terme « onction », il n'est quasiment pas employé dans le Nouveau Testament. Ça m'a fait sourire parce que tu as prié pour que je sois oint. Et c'est étonnant. Ce n'est pas employé, très peu employé, ou quand c'est employé, et c'est comme ça que je veux recevoir ta prière, c'est pour rappeler que cette onction demeure en nous. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Jusqu'à présent, je dirais dans l'Ancien Testament, avant que le Saint-Esprit descende, l'onction revêtait. L'huile coulait et puis elle revêtait, elle enveloppait. Mais ici, là, l'onction habite de l'intérieur. Désormais, le Saint-Esprit a fait sa demeure en nous. Nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que son œuvre en nous nous transforme pour nous rendre conformes à la volonté de Dieu. Et rappelez-vous ce psaume 91, psaume de victoire. Et le Saint-Esprit veut nous rappeler ça. Le Saint-Esprit veut nous convaincre. Le Saint-Esprit veut que nous changions ainsi notre culture. Mais alors, puisque nous avons toute la puissance de Dieu qui habite en nous, cette même puissance qui a enveloppé les héros de la foi, Ben, comment se fait-il finalement que, et moi le premier, je ne sois pas un Élisée, ou un Pierre, ou un Paul, ou d'autres héros de la foi? Je vous regarde là, si je ne vous perds pas trop. Il me semble que, et cela vraiment, ça n'engage que moi, c'est parce que je n'ai pas la culture de la victoire. Pierre avait la culture de la victoire, mais n'avait pas dans un premier temps le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit, mais nous n'avons pas forcément la culture de la victoire. Bien sûr, nous avons le Saint-Esprit, mais est-ce qu'il n'est pas finalement muselé par notre culture de l'échec? Oui, on a tous de bonnes excuses. Depuis des générations, nos ancêtres ont peur de la famine, ils ont peur de la guerre, ils ont peur des maladies, ils ont peur de la crise économique, on a peur des étrangers. Et puis mes peurs, ouais, j'en oublie parce que j'en ai tellement. Et toutes ces craintes, finalement, nous ont façonnés et participent à un climat de doute et qui entraîne, soi-disant, des réactions rationnelles. En tous les cas, c'est comme ça qu'on veut se justifier, mais ces réactions rationnelles entraînent l'échec. La grande majorité des circonstances contraires que nous rencontrons nous poussent à envisager le pire, ou du moins le statu quo. Parce que c'est comme ça que ça a toujours marché, hormis si notre foi est mise en action et nous fait voir la délivrance et donc la victoire. Pire encore, nous allons utiliser la parole pour nous justifier de ne pas demander un miracle. Parce que c'est vrai, en effet, c'est écrit que Paul a laissé Trophime malade. C'est écrit aussi que Paul n'a pas été délivré. Il a prié par trois fois pour être délivré de ses échardes. Et il n'a pas été délivré. Je ne veux pas faire de là de l'évangile de prospérité, mais je veux rappeler, et encore ce matin, le Saint-Esprit nous a rappelé dans ses psaumes. Les témoignages de dimanche nous ont rappelé ça. Je veux rappeler quelle est cette puissance que Dieu a décidé de faire habiter en nous pour que son royaume avance. Christ, bien sûr, est venu pour nous sauver, mais il est venu aussi pour guérir les malades. Il est venu pour libérer les captifs. Et il nous envoie dans le monde pour faire des choses encore plus grandes que lui-même a faites. Tant que le Seigneur, lui-même, ne nous dit pas « ma grâce te suffit », comme il a dit à Paul, avons-nous une raison de ne pas réclamer nos miracles? Avons-nous une raison de dire « on ne prie pas » ou « on ne peut pas demander la guérison » On n'a aucune raison pour intercéder jusqu'au bout, tant qu'un de nous n'a pas entendu « ma grâce te suffit ». Le choix de la culture de la victoire ou celle de l'échec, elle est de notre responsabilité. Mais ce choix est grandement influencé par notre intimité avec Dieu. Car c'est cette intimité qui nous fait connaître de quoi est capable le Seigneur. Ouais, nous voyons Élisée, nous voyons Pierre, et combien d'autres personnages bibliques qui ont fait le choix de la culture de la victoire en cherchant l'intimité avec Dieu. Dimanche encore, il a été rappelé l'histoire de cette femme avec la perte de sang. Depuis 12 ans, elle était considérée comme impure parce qu'elle perdait du sang et selon la loi juive, elle était donc impure, constamment impure. Pas de répit dans son impureté. Et sa situation, finalement, aller en empirant. C'était quoi sa culture, elle ? Culture de l'échec, inévitable. Et jusqu'au jour où elle entend parler de Jésus, et elle recherche sa proximité, elle s'approche modestement, dans le secret, par derrière, et elle touche en se cachant pour être guérie, finalement, miraculeusement. Dimanche, on a encore vu ces jeunes de Gemme dans les rues de Lyon, avec Floriane. Ils proposent le salut Il propose le salut, il propose aussi la guérison. Et leur culture de victoire, ben oui, fait que la guérison est là. Oui, parmi nos contemporains, des frères et des sœurs vivent des victoires éclatantes dans leur vie ou dans les personnes ou dans la vie des personnes qu'elles croisent. Car ils ont appris à cultiver ensemble cette belle fleur qu'est la victoire. Quand on écrit, on lit les récits de Florian, on voit que toute la semaine, ouais, ils sont au charbon hein, aussi pour se laisser convaincre par le Saint-Esprit de cette réalité-là. On pourrait écouter Rémi, Pierre et Maxime. Ils ont été 2 semaines. Voilà, ils ont été en contact là avec des personnes qui étaient eux dans cette victoire là. Moi, je suis désolé, j'ai perdu le fil là parce que j'ai plus mes notes. Voilà, ça c'est normal. Ouais, ça vous fait rire, mais. Non, je... Non. Voilà. Non, mais c'est quelque chose de. C'est vraiment pas un scoop, ces choses-là. Mais tous ces frères et sœurs, ils ont reçu, oui, le même esprit que nous. Il n'y a pas de doute à de cela. L'esprit que nous avons ici et en nous est le même, ce qui est à Lyon ou au Burkina Faso. Et ce qui fait toute la différence, ben c'est leur culture, la victoire. Pour eux, finalement, des vies brisées, des divorces, les addictions, la maladie et même la mort sont de grandes occasions ben, de voir la gloire de Dieu vraiment manifester par ses miracles la puissance du Saint-Esprit. Alors que la sagesse humaine nous dit d'accepter avec fatalité notre sort. On l'a évoqué mardi, ça, hein, en étude biblique, 1 Corinthiens 2, verset 14, « Toutes les choses de l'esprit sont une folie pour les sages de ce monde, et il ne peut les connaître. » Alors finalement, ne soyons pas trop sages de cette sagesse humaine, mais au contraire, laissons notre sagesse se renouveler vers celle de Dieu, pour nous laisser gagner parce qu'il peut nous sembler, oui, humainement une folie. Alors pour en revenir à notre personnage d'Élisée, et je terminerai par cela, parmi les contemporains d'Élisée, il y avait les fils des prophètes. Alors on ne sait pas trop qui sont ces fils des prophètes, mais on les voit à plusieurs reprises vraiment dans la proximité d'Élisée. Ils connaissaient vraiment pas mal de choses. Hein. Ils savaient que, par exemple, qu'ils savaient que Élie allait être élevé. Ils savaient qu'Élie devait partir. Et ce sont eux aussi qui sont les premiers témoins du premier miracle d'Élisée lorsqu'il frappe l'eau et que le Jourdain s'ouvre. Et ces fils des prophètes, ils sont souvent en troupe. Et leur vie, elle est semée d'embûches. Et on les voit rechercher la proximité d'Élisée, voire son intimité. À un moment, il y a un fils des prophètes qui ramasse une courge et puis elle est empoisonnée, cette courge, c'est la catastrophe. Ils en ont tous mangé, paf, Élisée est là, paf, ben, le miracle est là, forcément. Ensuite, il y en a qui disent, ben, tiens, on est un peu trop juste ici, on est trop petit, il faut qu'on aille ailleurs, on doit grandir, mais il faut que tu viennes avec nous. Et là, ben, ils commencent à couper du bois pour élargir la pièce, la place. Et puis ils perdent un morceau de bois, de fer, de la hache. Et puis là aussi, tout est foutu, parce qu'en plus, il n'était pas lui, il était un copain. Et Élisée est là, il fait remonter le fer. Non, mais c'est simple, la culture, la victoire. Donc moi, je vous encourage à lire les péripéties avec Élisée dans les premiers chapitres du livre des Rois. Et pour moi, il me semble vraiment, quand je les vois, ces fils des prophètes, ben, il me semble me voir avec mes propres inquiétudes, mes incidents de parcours, mais aussi avec notre ferme désir de voir Jésus nous accompagner et intervenir miraculeusement dans nos vies et dans celles de nos prochains. Alors, je le rappellerai jamais assez, on est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Ça, c'est un verset qui est dans Romains 8 et que l'on doit, je pense, mettre sur notre front, je ne sais pas où, pour que notre cerveau vraiment intègre ce que cela veut dire, cela. Le Saint-Esprit nous le répète inlassablement. Notre cerveau, il a du mal à l'accepter. Et si on se laisse gagner par cette culture-là, plus, je pense, on le voit, plus l'intimité avec Jésus aussi sera forte. On verra que, de toute façon, on a besoin d'être proche de lui, on a besoin de le chercher. Et vous savez, il y a des détails qui changent pas, qui trompent pas aussi dans la parole. Oui, Jésus était puissant. Mais il y a une chose, il y a des endroits où il n'a pas pu faire de miracles. Il n'a pas pu faire de miracles à Nazareth, parce que beaucoup disaient, oh ben on connaît son fils, ses frères, on connaît sa sœur, on connaît ses parents. Ouais. Ils avaient le schéma de Jésus comme un homme normal, quoi, qui vit. Donc, avec une culture normale de l'échec. Et il n'a pas pu faire de miracle avec cette culture-là, dans l'ambiance. Il y a un autre endroit où il y a un détail qui m'a frappé, c'est lorsqu'il ressuscite la fille de Jaïrus. Donc Jaïrus était un sacrificateur, je crois, et il arrive, voilà, la fille était décédée, puis un serviteur qui lui dit, ben non, ne tracasse pas le maître, c'est fini, elle est morte. Oula, Jésus dit, non, ne crains pas, crois seulement. Et un détail là qui dans l'histoire qui me frappe, c'est qu'il demande aux autres de sortir, de quitter la pièce. Tous ceux qui proclament, attends, elle est morte, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Tous ceux qui ont cette culture de l'échec, il les laisse dehors. Et il demande au père et à la mère, il demande à Pierre, Jacques et Jean d'être là. Bizarre, Pierre était là aussi. Pas étonnant. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Jaïrus ressuscite. La fille de Jaïrus ressuscite. Alors, c'est tous des petits détails que l'on peut voir dans la parole de Dieu, où oui, le Saint-Esprit agit, mais on voit qu'on a notre lot à faire nous aussi. On a à se laisser reprendre notre intelligence. On a lu aussi dans l'Épître aux Corinthiens que ouais, ces choses qui ne montent pas naturellement dans notre cœur. C'est tout ça qui a du mal à monter naturellement dans notre cœur. Alors, un détail aussi, ces fils des prophètes avançaient en troupe. Moi, je crois qu'on a besoin d'avancer en troupe. Avancer tout seul, c'est dur. Et on a besoin de s'émanciper, on a besoin, nous, de s'encourager, de voir dans nos frères et sœurs la victoire qui agit. On a besoin d'entendre les témoignages comme on a entendu, bien sûr, dimanche. Mais on a besoin aussi de mener dans cette proximité, dans nos cellules, dans nos réunions de semaine, dans nos cultes, enfin, dans toute occasion que nous avons d'aller prier, demander la guérison auprès des personnes que nous connaissons dans l'Église, et on en connaît, qui sont mal, physiquement. Voilà, c'est vrai que je pensais faire la scène au milieu, mais en relisant 1 Corinthiens 11, j'ai dit c'est bien de terminer par ça. 1 Corinthiens de terminer par ce moment fort de la Sainte Cène, de partager, nous tous qui connaissons un peu cette dualité, ces différences de sentiments par rapport à le Saint-Esprit qui est en nous et à notre culture ambiante, de rappeler ce que nous nous rappelons chaque fois que nous prenons cette Sainte Cène. Donc c'est 1 Corinthiens 11, verset 23, 24. Donc et après avoir rendu grâce, il le rompit. Je vais dire les 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Voilà, ce que nous faisons là, nous annonçons la mort du Seigneur. Mais la mort du Seigneur, c'est quoi dans votre sagesse? C'est la fin ou c'est le début? C'est une folie ou c'est quelque chose de sage? Là, la mort du Seigneur, c'est la victoire. Juste, tu peux mettre le verset d'Hébreu, j'ai vu que tu as éteint, d'Hébreu 2, que je voulais garder aussi pour la fin, pour rappeler que cette mort, voilà, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il y délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voilà ce que nous rappelons chaque fois que nous prenons cette scène. On rappelle la victoire de Christ à la mort de la croix. Le diable a été anéanti. Par cette mort, tous ceux qui, par crainte de la mort, sont dans cette crainte-là, peuvent être délivrés. Tous ceux qui sont retenus dans quelconque servitude peuvent être aussi libérés. Ça, c'est la culture de la victoire. C'est Christ qui nous a fait découvrir cela. Et cette sainte scène-là, ce repas, nous rappelle cela aussi. Et c'est ce que nous annonçons encore ce matin. Voilà, est-ce que ouais, Emmanuel et Rebecca, vous voulez prier pour ce pain et ce jus de raisin?
Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci parce que tu nous as donné ton Fils. Merci Seigneur parce qu'à travers cela, nous avons la victoire. Merci parce que le péché a été battu. Merci parce que ce salut n'est pas réservé à une élite, mais tu nous l'as offert Seigneur. Merci pour ce sacrifice tellement, on peut le voir comme fou, mais... C'est une sagesse de ta part, Seigneur, de nous avoir offert ce sacrifice. Merci pour cette vie éternelle que tu nous promets. Et merci parce qu'avec toi, nous pouvons marcher tous les jours en sachant que tu es à nos côtés. Amen.
Seigneur, je te remercie vraiment pour ce privilège que nous avons de partager ce repas tous ensemble. Seigneur, ce privilège que nous avons d'être tes enfants. Seigneur, tu as accepté d'être cloué sur cette croix et ton sang a été versé pour nous purifier, Seigneur, pour nous donner cette vie en abondance. Et moi, je te remercie pour l'esprit que tu as envoyé. Seigneur, tu as déjà fait beaucoup de miracles dans nos vies et dans cette église, Seigneur. Seigneur, nous sommes bien imparfaits, mais jamais, jamais tu nous as abandonnés. Et Seigneur, encore aujourd'hui, nous voulons voir des miracles et nous voulons voir des vies transformées, Seigneur, par ton esprit. Merci, Père. Quelle joie de marcher avec toi, de vivre avec toi et de vivre avec mes frères et sœurs que j'aime tellement, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.
Pour ceux qui préparent la coupe, hein, je vais passer dans les rangs.